On sait que François Truffaut a lu et relu Balzac tout au long de sa vie et que c'est l'un des écrivains qu'il a le plus admiré. Dans sa correspondance, on trouve de nombreuses allusions à Balzac. Et Truffaut, par exemple, juge que Balzac et Proust sont les deux plus grands romanciers de la langue française. Certains passages de ses lettres prouvent même que Truffaut connaissait en spécialiste l'auteur de la Comédie humaine. Il écrit par exemple le 1er janvier 1952 à Robert Lachenay, qu'il essaye d'arracher à Paul de Kock pour le convertir à de meilleures lectures. C'est la première citation de votre exemplier. Truffaut écrit donc à son ami « La meilleure biogue de Balzac ? Quelle question, je suis toujours pour le tout ou rien, surtout quand il s'agit de Balzac. Les deux tomes de la vie de Balzac par André Billy chez Albin Michel, je crois, sont intéressants mais insuffisants. Le Balzac de René Benjamin est admirable, mais également et pour d'autres raisons insuffisant. Collection Nelson et peut-être ailleurs aussi. Le aimé Balzac de Claude Mauriac est parfaitement inutile. Mais il doit y avoir mieux encore pour les spécialistes de Balzac. Marcel Boutron, Pierre Descaves, etc. Ce sont des critiques et éditeurs de Balzac qui avaient publié jusqu'au début des années 1950 des essais consacrés à cet auteur. À mon avis, poursuit Truffaut, mon humble avis, il faut avoir avant acheté et lu tout Balzac, y compris le théâtre, etc. Et même avant les biographies, il faut avoir la correspondance de Balzac, au moins 4 ou 5 tomes, correspondance avec Zulma Caro, etc. Alors, cette citation montre non seulement que Truffaut connaît les ouvrages les plus récents consacrés à Balzac, mais aussi qu'il s'intéresse à l'homme Balzac et à sa vie presque autant qu'à son œuvre. Il a lu en effet plusieurs biographies, mais également la correspondance de l'écrivain. En fait, l'homme et l'œuvre semblent pour lui indissociables. Et significativement, même s'il s'agit d'une tournure relativement courante, Truffaut recourt ainsi souvent à la métonymie en mentionnant, pour désigner des romans de Balzac, des Balzac et même du Balzac, comme si l'œuvre multiforme qu'est la Comédie humaine était aux yeux du cinéaste une entité indivisible, l'émanation d'une substance balzacienne dont il se nourrissait. Plus troublant encore, Truffaut écrit à Robert Lachenay en juin 1945 « J'ai reçu avec un réel plaisir tes deux colis, Balzac est bien arrivé ». L'œuvre n'est plus une part inséparable de la personne, mais c'est la personne même. Alors cette passion se retrouve bien sûr dans l'œuvre de Truffaut et de façon assez protéiforme. En guise de préambule, il importe d'établir un bref relevé des occurrences balzaciennes dans les films de Truffaut. Alors on trouve d'abord des mentions fugitives et apparemment anecdotiques de Balzac dans « Les deux Anglaises et le continent » et dans « La chambre verte », un film sorti respectivement en 1971 et 1978. Dans le premier de ces deux films, la statue de l'écrivain sculptée par Rodin fait deux apparitions. Au début, quand Claude le fait découvrir à Anne, et puis dans la scène finale où l'on voit Claude se promener 15 ans plus tard dans les jardins du musée Rodin et où l'on entend la voix off, c'est-à-dire Truffaut lui-même, disant « La statue de Balzac est enfin reconnue et admirée par tous ». Et puis dans la chambre verte, la photo de Balzac, vous vous en souvenez probablement, figure parmi ces innombrables photos de morts à qui Julien Daven rend un culte dans la chapelle ardente qu'il leur a dédiée. On trouve ensuite d'importantes références à Balzac dans le cycle Antoine Doinel. La photo de Balzac se trouve déjà dans Les 400 coups, sorti en 1959, film où cette photo est l'objet déjà d'une sorte de dévotion de la part du héros qui encourt par ailleurs une grave punition pour avoir plagié, en guise de dissertation, un passage de La recherche de l'absolu. Puis la référence à Balzac se retrouve dans le deuxième long-métrage et troisième chapitre du cycle, « Baiser volé », sorti en 1968. « Baiser volé » dont le titre même est une allusion à une scène clé du roman de Balzac, dans laquelle le tout jeune Félix de Vandenesse, relégué sur un coin de banquette lors d'un bal, voit s'asseoir près de lui une femme aux épaules superbes, sur lesquelles il lui prend l'envie de se rouler, et sur lesquelles il se jette pour les dévorer littéralement de baisers volés, selon la formule du narrateur. On trouve enfin des références déterminantes à Balzac dans deux drames, « La peau douce », sorti en 1964, et « La sirène du Mississippi », sorti sur les écrans en 1968. Dans ce dernier film, le héros Louis Mahé, recherché pour meurtre et caché dans un chalet sous la neige, est empoisonné sans le savoir, puis en le sachant, par Marion. Et, sur son lit de souffrance, que lit-il ? La peau de chagrin. Et dans La peau douce, enfin, sortie 4 ans plus tôt, la référence à Balzac est particulièrement mise en évidence, puisque le héros Pierre Lachenet, incarné par Jean Desailly, est un écrivain et un critique célèbre, spécialiste de Balzac, à qui il vient de consacrer un essai intitulé « Balzac et l'argent ». Et il se passionne pour cet auteur au point d'en parler longuement à Nicole, la belle hôtesse de l'air qu'il vient de rencontrer. Et je vous montre un premier extrait que Pierre Lachenet entretient Nicole de Balzac.
Alors il décide de devenir lui-même éditeur et il achète même une imprimerie. Malheureusement, les affaires marchent mal et ses associés prennent peur et abandonnent. Alors pour tenter de redresser la situation, il décide de faire tout lui-même. Les caractères d'imprimerie, les lettres, vous savez, sont en blanc. Il va fondre lui-même ses propres caractères et bientôt, il décide de fabriquer son propre papier. Mais l'entreprise tourne mal et il perd tout, tout. Même l'argent que lui avait prêté Madame de Berny.
Madame de Berny, c'était sa maîtresse?
Bien sûr. Et vous savez comment il m'avait prévenu quelques années plus tôt? Nous sommes à Tours. Madame de Balzac voudrait beaucoup marier son fils Honoré. Elle invite Madame de Berny, qui, elle, a deux filles à marier. Honoré, enfin Balzac est là, on le présente aux deux jeunes filles. Elle le laisse complètement indifférent, mais il tombe éperdument amoureux de la mère.
C'est formidable.
N'est-ce pas? Oh, mais il est très tard, j'ai parlé tout ce temps-là. Je suis confus.
Non, c'était passionnant, c'était...
Voilà, alors je coupe ici une scène, vous le voyez, assez comique. Parce que je pense pas que ce soit dans tous les guides du séducteur que voilà, cette préconisation de parler de Balzac à la femme qu'on entreprend de séduire. Mais il est vrai que Pierre Lachenet est un écrivain de renom, donc finalement il peut parler de n'importe quoi. Il sera toujours intéressant, aux yeux de Nicole en tout cas. Alors les références à Balzac, en tout cas vous le voyez, sont nombreuses dans les films de Truffaut et elles sont parfois affichées de façon assez ostentatoire. On notera cependant que le cinéaste n'a réalisé aucune véritable adaptation d'une œuvre de Balzac, contrairement à ce qu'ont fait de nombreux autres cinéastes, et alors que Truffaut a réalisé d'assez nombreuses adaptations, à partir d'œuvres littéraires qu'on pourrait d'ailleurs juger plus médiocres. Alors je voudrais ainsi m'interroger aujourd'hui avec vous sur le rôle de la référence balzacienne chez Truffaut, sur ses enjeux, sur sa valeur, mais aussi sur ce fait que Truffaut n'a jamais à proprement parler adapté son auteur favori, fait un peu paradoxal, même si on sait que la nouvelle vague s'est méfiée des adaptations académiques de chefs-d'œuvre. On sait par exemple le jugement sévère de ces cinéastes à l'égard de, par exemple, l'adaptation de La Chartreuse de Parme par Christian Jacques ou encore à l'égard de certains films d'Otan Lara. Mais l'hypothèse que je formulerai aussi, c'est que l'univers, la pensée, la personne de Balzac ont été trop proches de Truffaut, trop intimes, pour qu'il en propose une adaptation, geste qui transpose l'œuvre source en signalant aussi son extériorité. L'œuvre du cinéaste me semble plutôt manifester une sorte d'innutrition ou d'incorporation de l'œuvre balzacienne, sans que cela interdise d'ailleurs un rapport critique. Alors pour explorer cette hypothèse, je reviendrai d'abord sur les enjeux autobiographiques et autofictionnels de la référence à Balzac dans « Les 400 coups et baisers volés ». Je m'attarderai ensuite sur les enjeux philosophiques et existentiels de cette référence, notamment à partir de « La peau douce » et de « La sirène du Mississippi ». Et puis j'esquisserai enfin quelques pistes de réflexion sur les enjeux esthétiques et narratifs du modèle balzacien. Revenons d'abord aux origines, celles du cycle Douanel et celles du personnage qui est au cœur de ce cycle, personnage dont il est inutile de rappeler qu'il emprunte énormément à François Truffaut. Alors, je passe un second extrait, cette fois-ci issu des 400 coups.
Tout à coup, le moribond se dressa sur ses deux poings, jeta sur ses enfants effrayés un regard qui les atteignit tous comme un éclair. Les cheveux qui lui garnissaient la nuque ruère, ses rides tressaillirent. Son visage s'anima d'un esprit de feu. Un souffle passa sur cette face et la rendit sublime. Il leva une main crispée par la rage et cria d'une voix éclatante le fameux mot d'Archimède. Eureka, j'ai trois.
Et qui vous a personnellement concerné.
Eureka, j'ai trouvé. La mort de mon grand-père.
Alors, cet épisode appelle plusieurs remarques. Tout d'abord, cet épisode de lecture détermine une péripétie essentielle. Antoine est en effet, un petit peu plus tard, accusé de plagiat par son terrible instituteur, et de fait, comme on le comprend lors de la scène que vous venez de voir, il a réécrit le passage de la recherche de l'absolu en guise de composition française sur le sujet suivant, décrivez un événement grave dont vous avez été témoin et qui vous a personnellement affecté. Et il finit par être renvoyé de l'école. Or, ce renvoi va constituer la première étape d'un processus qui va mener Antoine à la révolte, révolte contre l'institution scolaire, mais aussi contre ses parents, qui va le mener à la marginalité sociale et même à la délinquance, puisqu'il se retrouve peu après en maison de correction, processus pourtant qui finalement va conduire Antoine à la liberté. Le film, vous vous en souvenez sans doute, s'achève sur le visage grave et exalté de l'adolescent qui vient de s'évader de la maison de correction et qui voit devant lui, pour la première fois, la mer et son vaste horizon. Cet épisode éclaire par ailleurs toute l'ambivalence de la relation entre Antoine et sa mère. D'un côté, la référence à Balzac peut renvoyer à la mère mal aimante et à l'enfance et à l'adolescence malheureuse de François Truffaut, qui ont été finalement très similaires de celles de Balzac, que sa mère délaissa au profit de son jeune frère Henri, qui était d'ailleurs probablement le fruit d'un adultère. Toute la correspondance de Balzac, mais aussi une partie de son œuvre, témoigne de cette blessure. Il écrit par exemple à sa sœur Laure en juillet 1821 « La nature entoure toujours les roses d'épines et les plaisirs d'une foule de chagrins. Maman suit l'exemple de la nature, elle est massacrante pendant 5 heures et gaie, affable un moment. » Avec plus d'éloquence encore, il écrit à Madame Anska en 1846, et sans rien inventer, hein, puisque ce que dit Balzac est tout à fait exact et avéré, Balzac écrit « Je n'ai jamais eu de mère. Aussitôt que j'ai été mis au monde, j'ai été envoyée en nourrice chez un gendarme et j'y suis restée jusqu'à l'âge de 4 ans. De 4 à 6 ans, j'étais en demi-pension, et à 6 ans et demi, j'ai été envoyée à Vendôme, c'est le pensionnat du collège oratorien de Vendôme en Touraine. J'y suis restée jusqu'à 14 ans, en 1813, n'ayant vu que 2 fois ma mère. De 4 à 6 ans, je la voyais les dimanches. Quand elle m'a pris chez elle, elle m'a rendu la vie si dure qu'à 18 ans, 1817, je quittais la maison paternelle et j'étais installée dans un grenier rue Lesdiguières, y menant la vie que j'ai décrite dans La peau de chagrin. J'ai donc été, moi et Laurence, l'objet de sa haine. Elle a tué Laurence, mais moi je vis, et elle a vu mon adoration pour elle se changer en crainte, la crainte en indifférence. Ces lettres de Balzac, on le voit, dressent un portrait impitoyable qui pourrait tout aussi bien dépeindre la mère d'Antoine Doinel ou celle de Truffaut. D'un autre côté, la mère d'Antoine contribue à sa révélation littéraire. Elle lui a en effet promis 1 000 francs s'il arrivait parmi les 5 premiers à la composition française, et elle lui a répété que le français était important à l'école. C'est finalement ce marché et le désir de plaire enfin à sa mère qui déclenche la subite ambition scolaire d'Antoine. Et on sait du reste, on y est revenu hier, que Truffaut s'était jeté dans la lecture, à la fois pour obéir et pour échapper à sa mère, qui, comme Truffaut l'écrit lui-même, ne le supportait que silencieux et qui, par conséquent, le contraignait à de longues stations muettes auprès d'elle. Dans les 400 coups, d'ailleurs, le marché que Madame Doinel propose à son fils, hein, 1000 francs s'il arrive parmi les 5 premiers à la composition française, ce marché n'est pas dicté par les meilleures intentions, puisque Madame Doinel vient d'être surprise par Antoine dans les bras d'un amant, et elle veut aussi acheter le silence de son fils en se rabibochant avec lui. Une fois débarrassée d'Antoine, une fois son garçon en maison de correction, Madame Doinel, d'ailleurs, ne manifestera plus vraiment de sollicitude ni même de sentiments à son égard. Alors, dernière remarque à propos de cette scène et de la référence balzacienne dans les 400 coups. On peut aussi voir dans l'épisode qu'on a visionné une métaphore de l'avènement à la création, à la fois par l'imitation et la mise à distance d'un modèle admiré. Compagnon de misère d'Antoine, pour son enfance aussi malheureuse que la sienne, Balzac est également une sorte de père de substitution dont le nom consonne mystérieusement avec celui de Bazin, à qui les 400 coups est dédié. Et je pense d'ailleurs, hein, mais c'est une hypothèse toute personnelle, que Truffaut n'aurait pas tant aimé Bazin s'il n'avait pas tant admiré Balzac, hein, parce que, à mon avis, les noms ont une influence décisive sur les destins. Comme le montre l'hôtel qu'Antoine improvise pour lui, Balzac, en tout cas, est une sorte de divinité tutélaire qui lui a révélé la formule même du génie. « Eureka, j'ai trouvé !» s'écrie Antoine en même temps que le personnage Balthazar Claës, qu'Antoine, dans sa composition française, présentera d'ailleurs comme son grand-père, hein, se dotant comme ça d'une sorte de, d'ascendance de généalogie mythique. Le cinéaste écrivait d'ailleurs clairement à Georges Sadoul en 1959 « La grande révélation, ce fut pour moi Balzac, et ce n'est pas un hasard si l'enfant des 400 coups lui dresse un autel. » Pourtant, cette idole est aussi détruite, hein, puisque la photo de l'écrivain prend feu dans la scène suivante. Cette destruction n'est pas volontaire, mais ce qu'on adorait néanmoins est brûlé. Et par ailleurs, le danger que peut présenter la révérence sans distance se matérialise dans la punition que subit Antoine pour avoir plagié, en croyant l'inventer, un extrait de La recherche de l'absolu. « La recherche de l'absolu vous a conduit droit au zéro », lui dira méchamment son instituteur. En attendant, le parcours d'Antoine Doinel et le cycle de ses aventures se poursuivent dans le sillage de Balzac. Alors, le principe même du personnage récurrent, on le sait, est la trouvaille fondatrice de la comédie humaine, et Truffaut la reprend d'une certaine façon à son compte dans le cycle. Et de plus, Baiser volé, deuxième long métrage du cycle Doinel, donc, Baiser volé s'ouvre sur une nouvelle scène de lecture, cette fois-ci d'Ulys dans la vallée. Roman au début duquel, soulignons-le, Balzac a transposé son enfance douloureuse. Ce roman, paru en 1836, se présente en effet comme une longue lettre de confession dans laquelle Félix de Vandenesse raconte à sa fiancée, Nathalie de Manerville, son enfance solitaire puis son grand amour pour Henriette de Morsauf, dans laquelle on retrouve les traits de Madame de Berny, que Jean Desailly, ou plutôt Pierre Lachenay, évoquait tout à l'heure. Madame de Berny, cette femme de 22 ans plus âgée que Balzac, qui a été son initiatrice, sa conseillère, son fidèle appui, et qui a tenu lieu à la fois de maîtresse et de mère à l'écrivain. Donc on pourrait suggérer que Truffaut emprunte à l'écrivain son dispositif même d'une transposition fictionnelle de l'expérience biographique. Mais Baiser volé me semble surtout montrer, de façon réflexive, comment le cinéaste, à partir de patrons romanesques empruntés à autrui, Balzac en l'occurrence, invente sa propre voix. L'attraction pour des situations et des modèles romanesques et la tentation de bâtir sa vie sur ces fictions sont en effet mises en abîme dans le film. Au début, alors qu'il est entré dans l'armée, parce qu'il a lu, dit-il, « Servitude et grandeur militaire » de Vigny, et alors qu'il est sur le point d'être réformé pour instabilité caractérielle, Antoine lit donc, dans sa prison militaire, le Lys dans la vallée. Et à partir de là, son roman d'apprentissage va être structuré par ce modèle imaginaire et par ce rôle auquel Antoine s'est identifié, de sorte qu'on peut voir dans Baiser volé une véritable réécriture du roman de Balzac. Delphine Seyrig, qui devait jouer 2 ans plus tard dans une adaptation du Lys dans la vallée par Maurice Craven en 1970, Delphine Seyrig s'était d'ailleurs identifiée à l'héroïne de Balzac au point d'écrire à Truffaut à propos de Baiser volé « Quant à Fabienne de Morsauf, je l'adore. Il y a cependant des questions que je voudrais vous poser sur elle, sur Félix-Antoine Léo de Vandenesse. » Hein, vous voyez la contamination entre les noms propres qui est bien significative de cette confusion des rôles. Alors de fait, la scène de l'apparition de Madame Tabar dans le magasin de chaussures de son mari transpose et condense à la fois la première apparition d'Henriette aux yeux éblouis de Félix, puis la première présentation du jeune homme à l'épouse du déplorable comte de Morsauf, hein, puisque Madame de Morsauf, dans le Lys dans la vallée, subit un mariage extrêmement malheureux, et son mari est, pour aller vite, complètement nul, tout comme le mari de Fabienne Tabar. Alors, par ailleurs, plusieurs autres scènes de Baiser volé sont également, en fait, des transpositions ou des emprunts au Lys dans la vallée. Je vous en montre une. Alors, vous vous souvenez peut-être que Antoine est en fait employé dans une agence de détective et que c'est pour mener à bien une de ses missions qu'il s'est fait employer dans le magasin de chaussures de Monsieur Tabar. Et donc, il rend compte de sa mission à un de ses collègues et il fait donc le portrait de la femme de Monsieur Tabar dans la scène qu'on va visionner si j'arrive à la...
Right, pleasure, man. I'm sorry. George is waiting outside. Bye. Je vous en prie de me rapporter ça à l'appartement. Je vais vous montrer maintenant. Bon, je file. Bonsoir, Antoine. Vous savez comment vous faire. Vous travaillez bien tard.
Allô, Ida.
Salut, Antoine.
Bonjour, c'est Antoine, l'agent
d'affaires Cendrillon.
Alors, monsieur Tabar a surnommé le dinosaure par son personnel. Ah, j'ai pris la connaissance de madame Tabar. Elle a une voix enchanteresse et parle anglais avec une pureté admirable.
Donnez-moi son signalement.
C'est une femme superbe. Avec un air très vague et très doux. Le nez est un peu relevé, mais droit et spirituel.
Sa taille?
Ah là, la taille est lancée.
Non, je demande combien de mesures.
Oh, 1m66, sans talon.
Visage.
C'est un ovale très pur. Enfin, un ovale un peu triangulaire, mais le teint est lumineux et comme éclairé de l'intérieur.
Mais Antoine, c'est un rapport, pas une déclaration d'amour.
Alors, dans cette scène, c'est bien sûr l'espèce de contradiction entre la sincérité d'Antoine et puis la dimension très, très, très littéraire et artificielle en fait de son portrait. Je pense que c'est cette contradiction qui est notamment source de comique. Et alors, je ne vous ai pas reproduit l'extrait d'Ulysse dans la vallée, parce que le portrait d'Henriette de Morsauf est en fait disséminé dans l'ensemble du roman. Mais donc le portrait que fait Antoine de madame Tabar fourmille en fait d'allusions, voire de véritables citations au portrait d'Henriette de Morsauf, dans un roman qui, je l'ai rappelé, est un roman écrit à la première personne du singulier, hein, puisqu'il s'agit en fait d'une confession. Alors, cela dit, une scène déterminante intervient peu après, qui fonctionne cette fois-ci, me semble-t-il, comme une mise en cause de ce modèle fictionnel et, me semble-t-il, comme une critique de l'illusion romanesque. Fabienne Tabar vient trouver Antoine chez lui, alors que le jeune homme vient d'écrire à Fabienne et qu'il lui a écrit une lettre de déclaration amoureuse dans laquelle il lui disait « Mes sentiments mourront de la même impossibilité que ceux de Félix de Vandenesse pour Madame de Morsauf dans le Lys dans la vallée ». Et alors, voyons la réponse de Fabienne Tabar au jeune homme.
« Bonjour Antoine, je vous réveille. Mais moi aussi j'ai été réveillée très tôt ce matin par votre pneumatique. Mais c'est pas grave, c'est toujours agréable de se réveiller en lisant des choses jolies. Je me suis mise à ma table pour vous répondre, puis non. Je me suis aperçue que... Il fallait que je vienne ici tout de suite, moi-même. Bon, j'ai lu Ulysse dans la vallée. Je suis comme vous, je trouve que c'est très beau. Mais vous oubliez une chose, c'est que Madame de Morsauf aimait Félix de Vandenesse. C'est pas une belle histoire d'amour, c'est une histoire lamentable, parce que finalement elle est morte de n'avoir pas pu partager cet amour avec lui. Et puis, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. C'est tout le contraire. Par exemple, ce matin, avant de venir ici, je me suis maquillée, je me suis mise à poudre dans son nez. Et en traversant Paris, je me suis aperçue que toutes les femmes faisaient la même chose, pour le plaisir ou par politesse. Vous dites que je suis exceptionnelle. Ah oui, c'est vrai, je suis exceptionnelle. Toutes les femmes sont exceptionnelles, chacune à leur tour. Vous là, vous êtes tout à fait exceptionnelle. Vos empreintes digitales sont uniques au monde, vous savez ça? Vous êtes uniques, nous sommes tous les deux uniques. Uniques et irremplaçables. Avant de mourir, mon père a fait signe à son médecin de s'approcher. Et il lui a dit, les gens sont formidables. Pouf, il est mort. silencieux, mais je voudrais bien que vous me regardiez. Que vous regardiez moi. Vous m'avez écrit hier, et la réponse, c'est moi. Je vous propose un contrat. Un vrai contrat, équitable pour tous les deux. Puisque nous aimons tous les deux ce qui est exceptionnel, voilà. Je viens là, près de vous, maintenant. Nous restons ensemble pendant quelques heures. Et ensuite, quoi qu'il arrive, nous ne nous voyons plus jamais. D'accord ?
Oui.
Je n'ai pas trouvé la clé de la serrure.
Alors je coupe pudiquement la scène, hein, mais du reste, Truffaut le fait aussi, hein, rassurez-vous. En tout cas, vous voyez comment, dans cette scène, Fabienne Tabar affirme sa différence irréductible par rapport au personnage dans lequel Antoine, un temps, a souhaité la figer. Je vous ai reproduit le texte aussi sur l'exemplier. Fabienne Tabar dit « Je ne suis pas une apparition, je suis une femme », ce qui est tout le contraire. Et puis, un petit peu plus loin, elle dit « Je voudrais que vous me regardiez, que vous regardiez moi ». La réponse est « moi ». Et on a envie de mettre des italiques. Et puis, notons aussi que le contrat que la jeune femme propose à Antoine et qu'il s'empresse d'accepter, ce contrat inverse en quelque sorte le contrat tacite qui noue les personnages dans le Lys dans la vallée. Un contrat qui consiste pour Félix et Henriette à vivre l'un près de l'autre en renonçant à tout commerce charnel. Notons enfin que le dénouement de Baiser volé est lui aussi au rebours du roman, puisqu'à la fin du Lys dans la vallée, Nathalie de Manerville, qui était la destinatrice donc de la confession de Félix, Nathalie de Manerville abandonne son fiancé, ne pouvant pas lui pardonner son excès de sincérité. Au contraire, à la fin de Baiser volé, Christine et Antoine sont enfin unis, et on les retrouvera mariés, pas très heureux d'ailleurs, dans Domicile conjugal, le volet suivant des aventures d'Antoine Doinel. On peut donc considérer que Balzac suggère à Truffaut un dispositif autofictionnel, mais aussi des propositions romanesques par rapport auxquelles le cinéaste doit se situer dans un jeu d'imitation ou d'identification, mais aussi d'écart, geste qui relève d'un certain dépassement mimétique ou d'une mise en cause du mensonge romantique et de ses risques. Alors, dans Baiser volé, ce jeu d'allusions, de citations, de réécriture s'opère sur un registre plutôt léger, comique, parfois même burlesque, mais les prestiges, tout autant que les périls du romanesque, me semblent également explorés dans des drames où l'on retrouve la référence balzacienne. Ces drames, notamment La peau douce et La sirène du Mississippi, me permettront donc, dans une deuxième grande partie de mon propos, me permettront de poursuivre la confrontation entre l'écrivain et le cinéaste sur un autre plan, celui de la vision du monde et de l'existence que tous deux mettent en œuvre. Alors, dans La sirène du Mississippi, on l'a évoqué, le héros achève sa trajectoire au fond d'un chalet enneigé sur un grabat empoisonné et il lit La peau de chagrin. Alors, je ne vous projette pas l'extrême, mais ce qui est en fait significatif, c'est la présence même de ce livre à la fin du film. Or, de même que la lecture du Lys dans la vallée est déterminante dans Baiser volé, ce titre de Balzac dans La sirène du Mississippi n'est pas un hasard. Il s'agit, comme d'ailleurs la recherche de l'absolu citée dans Les 400 coups, il s'agit d'une étude philosophique. Vous savez que Balzac a construit la comédie humaine, c'est-à-dire la somme de ses œuvres, selon une architecture très, très rigoureuse. Il y a d'une part les études de mœurs, qui sont les romans les plus nombreux et qui se subdivisent à leur tour en scènes de la vie parisienne, scènes de la vie de province, scènes de la vie militaire, scènes de la vie privée, etc., scènes de la vie privée et d'autres scènes encore. Et puis, conçues comme une sorte de soubassement de l'édifice, il y a les études philosophiques. Et dans les études philosophiques, Balzac prétend remonter des faits aux causes et il prétend exposer les principes philosophiques qui sous-tendent donc son système, son monde. Et La peau de chagrin, donc, est l'une de ses études philosophiques, et La peau de chagrin expose de façon particulièrement claire la quintessence même du système balzacien, qui est, pour reprendre une grande idée développée par exemple par Ernst Robert Curtius, qui est un système énergétique. Dans La peau de chagrin, voilà ce que révèle à Raphaël de Valentin le vieil antiquaire, chez qui le jeune homme trouve le talisman à l'origine de ses aventures et de ses malheurs. Je pense que vous avez tous en tête cette fable qu'est La peau de chagrin. Un jeune homme, Raphaël de Valentin, chez un antiquaire, trouve une peau de chagrin, sorte de talisman qui va lui permettre de réaliser tous ses désirs, mais en échange, il a dû donner sa vie à l'antiquaire. Et à chaque fois qu'un des désirs de Raphaël se réalise, il s'aperçoit que la peau de chagrin rétrécit. Et à la fin du roman, le jeune homme est précocement usé donc par la réalisation de ses désirs. Alors voilà ce que révèle l'antiquaire au début du roman au jeune homme. C'est la quatrième citation de l'exemplier. Il lui dit « Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L'homme s'épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort, vouloir et pouvoir. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. » Chez Balzac, l'homme est donc confronté à l'alternative suivante, vivre paisiblement et longtemps, ou vivre passionnément et brièvement. Il s'agit au fond de s'ennuyer mortellement, de tuer les sentiments pour vivre vieux, ou bien de mourir jeune, en acceptant, comme le dit Balzac, le martyre des passions. L'ardeur vitale ayant finalement cette propriété tragique, de dévorer la vie dont elle est le principe. La vie est mortelle, c'est la vérité que Balzac orchestre à travers la foule des figures et des drames de sa comédie humaine, où, comme le disait Baudelaire, toutes les âmes sont des armes chargées de volonté jusqu'à la gueule. Or, cette alternative et ce caractère tragique de la passion me semblent très présents chez François Truffaut. La sirène du Mississippi montre bien une passion mortifère, pas sûr que Louis Mahé, à la fin du film, réchappe à son amante. La peau douce est également une tragédie de la passion, où les trajets précipités en voiture ou les excès de vitesse me semblent une bonne métaphore du sur-régime passionnel. Et de même, dans La peau douce, la bande-son, marquée par le retour de motifs obsédants, illustre bien l'engrenage du désir qui conduit finalement Lachenay à être tué par son épouse, Franca, en une vengeance et par un crime eux-mêmes passionnel. La femme d'à côté, bien évidemment, montre aussi de façon implacable la fatalité de la passion amoureuse. Et dans La femme d'à côté, l'alternative, tout comme chez Balzac, l'alternative à la passion mortelle est l'existence bourgeoise et ennuyeuse, celle de Mathilde auprès de son époux, qui est très irritant à force de gentillesse et de compréhension, ou encore l'existence de Bernard auprès de sa femme et de leur enfant. Truffaut considérait qu'à défaut du génie de Balzac, il avait une vie sentimentale aussi compliquée que la sienne, je cite une de ses lettres, et en tout cas, leur vision de la passion me semble assez similaire. Vision romantique, dans laquelle l'amour-passion, comme soif d'absolu, entraîne fatalement la mort, puisque précisément l'absolu n'est pas de ce monde. Je vous renvoie notamment aux analyses bien connues de Denis de Rougemont dans son essai canonique « L'amour et l'Occident », où le critique montre comment l'amour fou est une sorte de métabolisation ou de profanation au sens propre de l'amour mystique, et c'est pourquoi il débouche nécessairement sur la mort. Et à cet égard, rien de plus romantique que le dénouement de la femme d'à côté, qui réactualise le mythe des amants au tombeau. On a un motif semblable aussi dans le dénouement de Jules et Jim, et ce motif du reste des amants au tombeau et du suicide à deux, chemine en fait sous diverses modes dans l'ensemble de l'œuvre de Truffaut. Quant au dénouement de La peau douce, il est lui aussi d'une cruauté et d'une noirceur toute balzacienne, et Truffaut avait d'ailleurs confié à Georges Sadoul dès 1959 « Si je dirige un jour un film d'amour, l'influence de Balzac y apparaîtra nettement ». La peau douce, cependant, me semble à nouveau procéder à une certaine mise à distance critique de cet imaginaire romantique et romanesque, essentiellement transmis à Truffaut par Balzac. Le héros, on l'a dit, est un spécialiste de Balzac. Il pose sur cette œuvre qu'il connaît par cœur un regard critique. Il est capable d'en démonter le dispositif. Et d'ailleurs, au début du film, alors qu'il est rappelé que Pierre Lachenay vient d'écrire un ouvrage intitulé « Balzac et l'argent », un personnage lui demande « À quand Balzac et l'amour ?» Hein, et par conséquent, on ne peut pas s'empêcher de penser que Lachenay, d'une certaine façon, a en tête, en vivant ses propres aventures, cet essai hein, qu'il pourrait écrire, comme s'il expérimentait, avec une certaine froideur d'ailleurs, hein, c'est en tout cas mon sentiment, parce que malgré l'ardeur de ses regards, je trouve que Lachenay est un personnage d'une grande froideur, comme si Lachenay donc expérimentait en quelque sorte avec Nicole ce processus passionnel qu'il a mis à jour chez Balzac. Comme s'il devenait lui-même un personnage de son auteur de prédilection. Et bien sûr, Lachenay expérimente aussi ce processus ce mécanisme passionnel de façon assez maladroite, sans être à la hauteur, hein, peut-on dire, et finalement au prix de sa vie, et sans avoir pu écrire ce nouvel essai, hein, Balzac et l'amour. Alors, le fait qu'il soit l'observateur même impuissant de son propre drame, le fait d'avoir ce regard critique, hein, qui finalement érige les aventures de Pierre Lachenay en une sorte de spectacle intérieur me semble aussi néanmoins induire une sorte de distanciation hein, pour le spectateur, comme si le spectateur, quant à lui, était invité justement à mettre à distance ce mécanisme passionnel et cette tragédie. Alors, d'autres exemples permettraient de montrer chez Truffaut une vision globalement moins noire et pessimiste que celle de Balzac. Il semblerait qu'un certain compromis sentimental apparaisse au sein de certains trios amoureux. Et j'ai le sentiment que dans certains triangles amoureux, il y a une forme d'harmonie qui est possible. Hein. Je pense notamment au trio amoureux formé à la fin du dernier métro par Marion avec son mari et son amant. On a comme le sentiment, dans ce cas-là, par exemple, que la fidélité conjugale hein, vient tempérer en quelque sorte l'amour passionnel et vient contrecarrer le risque justement d'un amour fatal. Il n'y a aucun dénouement similaire chez Balzac où, pour aller vite, tout se finit toujours très mal, hein, sauf peut-être pour quelques personnages qui optent résolument pour la politique hein, et pour l'ambition politique. Mais en amour, chez Balzac, ça se finit toujours très très mal. Alors, la vision énergétique et tragique du monde et de l'individu, développée par Balzac, se retrouve cependant bien dans certaines œuvres de Truffaut où, justement, l'engrenage passionnel n'est pas enrayé. Et de plus, cette vision s'illustre dans la vie même de Truffaut. La passion, chez Balzac, c'est en effet non seulement le désir amoureux, mais aussi toute forme de désir, de volonté, d'ambition et même, finalement, de pensée. Avec quelque chose d'assez terrible, d'ailleurs, parce que chez Balzac, on n'échappe pas à la dévoration de la volonté par la contemplation. Hein, on est fatalement dévoré par la volonté. C'est ce que dit, par exemple, cet extrait que j'ai également reproduit, parce qu'il me semble une excellente synthèse du système balzacien, extrait des Martyrs ignorés, où, finalement, pensée intense, passion dévorante, désir violent sont assimilés. La pensée, lit-on dans les Martyrs ignorés, est plus puissante que ne l'est le corps, elle le mange, l'absorbe et le détruit. La pensée est le plus violent de tous les agents de destruction, elle est le véritable ange exterminateur de l'humanité, qu'elle tue et vivifie, car elle vivifie et tue. Les hommes qui, malgré l'exercice de la pensée, sont arrivés à un grand âge, auraient vécu 3 fois plus longtemps en n'usant pas de cette force homicide. La vie est un feu qu'il faut couvrir de cendres. Penser, c'est ajouter de la flamme au feu. Alors, je ne lis pas la suite de la citation, mais on voit bien comment donc la pensée, selon l'expression de Balzac, est une force homicide. Quant à la création d'une œuvre, elle suppose une prodigieuse dilapidation des forces vitales. Et finalement, c'est pour ça que la situation est d'une certaine façon sans issue. L'imagination elle-même n'est qu'une autre vie encore plus destructrice que la vraie vie. Pour son propre compte, Balzac a deviné rapidement qu'il mourrait précocement, à cause justement de cette dépense excessive d'énergie à laquelle il se livrait. Je mourrais épuisé, je mourrais de travail et d'anxiété, écrivait-il dès 1847. Il est finalement mort à 51 ans, véritablement épuisé de labeur. Et Truffaut, quant à lui, meurt à 53 ans, usé également par la suractivité et pour avoir trop pensé, trop donné au cinéma, comme le déclara Godard dans le bel hommage rendu au défunt en 1984. Or, un an avant sa mort, dans une lettre à Jean Gruau, Truffaut avait justement évoqué la même suractivité de Balzac. Il disait à Jean Gruau dans cette lettre « Pense à Balzac enfilant une vieille robe de chambre et absorbant 30 cafés par jour, en sorte de pouvoir inscrire le mot « fin » quelques heures avant le bal du 14 juillet. » Donc il y a une lettre peu de temps avant la mort de Truffaut où celui-ci évoque justement l'espèce de surmenage, dépense d'énergie totalement déraisonnable à laquelle se livrait quant à lui Balzac. Donc finalement, à leurs deux extrémités, la vie de Balzac et celle de Truffaut présentent une ressemblance assez frappante. Et finalement, c'est de cette analogie que je suis partie. Analogie entre deux enfants laissés pour compte qui, en un geste prométhéen, se font démiurges pour combler leur absence d'origine. Analogie aussi entre deux travailleurs acharnés qui dépensent déraisonnablement et délibérément leur force vitale dans leur création. Balzac, on peut le suggérer, a ainsi proposé à Truffaut des situations et des dispositifs romanesques, mais il lui a aussi proposé un imaginaire de la création et peut-être même un modèle ou un style d'existence, celui d'un auteur au sens plein du terme, auteur qui garantit sa cohérence à l'œuvre, auteur qui signe et qui assume l'œuvre en y engageant sa vie. La vie de Truffaut, à bien des égards, est une vie balzacienne. Cet engagement de l'existence dans l'œuvre, ou cette morale de la forme, c'est aussi ce que Barthes nommait l'écriture, et il faudrait, c'est du conditionnel, tu notes, il faudrait poursuivre à présent cette réflexion en confrontant de manière plus précise l'écriture balzacienne et celle de Truffaut. Truffaut qui appelait de ses voeux, comme on le sait, l'avènement d'un véritable écrivain de cinéma. Alors, un numéro de la revue Études cinématographique dirigée par Yannick Mouren s'intitulait « François Truffaut, l'art du récit », et je pense qu'on pourrait montrer dans le détail que Balzac offre aussi aux cinéastes un ensemble de procédés efficaces pour monter ses histoires, pour enchaîner les événements de façon à capter l'attention du spectateur, de façon à l'émouvoir, de façon bien sûr aussi à faire sens. Lorsqu'il était venu commenter l'an dernier La sirène du Mississippi projetée à l'amphi Pierre d'Or, Arnaud Desplechin avait d'ailleurs rapidement commenté l'allusion à la peau de chagrin dans La sirène du Mississippi. Et la première réflexion qui était venue à l'esprit d'Arnaud Desplechin, c'est que ce que Truffaut empruntait finalement à Balzac, c'était le goût de la précision, le goût de l'exactitude, le goût de la logique. La correspondance de Truffaut avec Robert Lachenay, notamment, montre aussi combien le cinéaste admirait chez Balzac le constructeur d'intrigues. Pour citer un seul exemple d'un procédé particulier que Truffaut pourrait emprunter à Balzac, on peut penser au tout début de Baiser volé, la première séquence du film. Dans la première séquence du film, la caméra filme en plongée les toits de Paris, puis zoom progressivement sur une fenêtre, ou plutôt un soupirail qui est la prison militaire dans laquelle Antoine est aux arrêts. Et en fait, c'est un procédé tout à fait équivalent à l'effet de resserrement qu'on trouve au début de certains romans de Balzac. D'ailleurs, la caméra chez Truffaut accomplit d'une certaine façon un fantasme typiquement balzacien, celui de soulever véritablement le toit des maisons ou d'entrer justement par un soupirail pour scruter ce qui se passe à l'intérieur derrière la façade, de façon à écrire cette histoire des mœurs, y compris des mœurs privées et secrètes, que vise le romancier. Alors, si l'on inverse la perspective et le cours du temps, on peut affirmer que Balzac, quant à lui, met en œuvre un art cinématographique de la narration et de la fiction. C'est ce qu'Anne-Marie Baron avait d'ailleurs brillamment analysé dans un essai au titre paradoxal, Balzac, cinéaste, où la critique montrait comment le fameux réalisme balzacien était en fait le résultat d'une série de manipulations procédant d'une attention minutieuse aux images et à leurs valeurs. Je n'ai pas le temps, bien sûr, de reprendre le détail de la démonstration d'Anne-Marie Baron, mais vous voyez bien évidemment quelles conclusions il faut en tirer. Ce n'est pas Balzac qui a influencé Truffaut, c'est Truffaut et ses confrères cinéastes qui ont influencé Balzac. Et ce n'est pas étonnant, hein. Balzac s'étonnait au contraire qu'on ait pris avant tout Balzac pour un observateur, alors qu'à ses yeux, l'auteur de la Comédie humaine était avant tout un visionnaire. Je vous remercie de votre bienveillance.